très bien.
Il va avoir un réveil pénible. Je voulais être diplomate à cause de vous tous, éviter que ça en coule, mais maintenant c'est fini.
Au lendemain des émeutes, et après la dissolution des ligues fascistes, je conservais de fidèles adversaires à gauche, et je n'avais désormais que des ennemis à droite. Les cheminées des aciéries s'éteignent, et c'est grave pour un pays quand le ciel redevient clair au-dessus des centres ouvriers. Or, il fallait choisir entre la protection du capital et celle du travail. Je vous reproche simplement de vous être fait élire sur une liste de gauche et de ne soutenir à l'Assemblée que des projets d'inspiration patronale.
Il y a des patrons de gauche, je tiens à vous l'apprendre.
Il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre.
Une grève surprise, bravo. Monsieur Grafouillère, vous êtes un meneur et vos petits camarades des inconscients. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Des chômeurs en puissance.
L'ordre étant rétabli, je demandais les pleins pouvoirs et les obtenais. Mais sauf pour les dictateurs et les imbéciles, l'ordre n'est pas une fin en soi. L'ordre n'empêche pas le nombre des chômeurs d'augmenter, ni les faillites de se multiplier. Je suis anarchiste.
Nous allons repeindre la vie, lui donner une couleur tendre. Nous allons installer le printemps dans ce pays de merde.
Ah là là, dire qu'on finit tous de la même manière. Trouvez pas ça humiliant?
Oh là là, il y en a des choses affichées la plus belle.
Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans ce Canu Info du jeudi 12 décembre, non Delphine, 12 janvier 2017, et oui j'ai du mal à avancer dans cette nouvelle année. Bonsoir à toi Laurent.
Bonsoir.
Ce soir nous allons vous faire un point sur Israël et Palestine, nous irons en Mauritanie avec Laurent. Nous ferons vroom vroom, nous parlerons voiture, automobile, secteur, Mexique et Monsieur Trump. Nous parlerons aussi de justice, hein, ça a été l'actualité du jour avec des rebondissements. Nous parlerons de l'affaire Weidenstein qui a trouvé une issue, pas forcément favorable pour nous, mais enfin bon, c'est comme ça. Nous aurons des informations écolo sur les rapports, nous parlerons grippe aviaire et puis coton égyptien si nous arrivons au bout de ce Canu Info. Mais pour ouvrir, nous allons un petit peu parler de ceux et de celles qui sont en résistance, qui luttent et qui se retrouvent face à la justice. Et tous les deux, nous avions envie avec Laurent de commencer par cette affaire Tarnac, comme on parle dans les médias. La Cour de cassation a écarté ce mardi la qualification terroriste. C'est quelque chose que nous attendions quand même, tous et toutes, nous particulièrement avec Laurent. Ça nous a fait plaisir quand même, il faut le dire. Donc, il y a quand même 8 personnes qui seront jugées pour sabotage et association de malfaiteurs. C'est-à-dire que l'affaire n'est pas finie, bien évidemment. Mais enfin, c'est quand même un petit soulagement qui en fait cette reconnaissance. On se souviendra de ce que disait Michel Alliot-Marty à l'époque ministre de l'Intérieur de cette affaire Tarnac, elle qui nous avait parlé de cette extrême gauche radicale qui nous parlait de violence associée à tous ces gens. Enfin bon, pour l'instant ces 8 personnes continuent à clamer leur innocence. En parlant justice encore, toujours, et là c'est plus une justice de classe, moins une... enfin, l'affaire Tarnac, c'est une justice politique. Là, c'est une affaire de classe. Les ex-salariés de Goodyear's, la cour d'appel d'Amiens a condamné mercredi 7 anciens salariés de Goodyear's poursuivis pour la séquestration de dirigeants dans une usine en 2014 à des peines de prison avec sursis jusqu'à 12 mois. Alors, c'est un peu mieux que ce qu'il y avait avant. Reste qu'il y a encore quand même la sanction qui est encore là. Alors, ce qui est intéressant, c'est c'est qu'il y en a quatre de ces ex-Goodyear qui ont été reconnus coupables de séquestration. Par contre, ils ont été relaxés du chef d'accusation de violence en réunion. Par contre, il y en a trois autres qui, eux, sont relaxés du chef de séquestration, mais reconnus coupables de violence en réunion. Il y en avait un huitième qui a été totalement relaxé. Bon, nous, on aimerait bien qu'il y ait une relaxe totale de ces ex-salariés de Goodyear qui étaient certes en colère, mais dans une colère assez justifiée, il faut le dire. Dans d'autres personnes qui sont en résistance et qui luttent et qui sont face à la justice, il y avait aussi Yana Zdanova, j'ai toujours un petit peu du mal avec son nom de famille, veuillez m'excuser. Elle est ukrainienne, donc c'est une langue que je parle pas trop, à vrai dire. C'est une militante féminine, vous vous souvenez peut-être d'elle, elle avait attaqué la statue de cire de Vladimir Poutine au musée Grévin à Paris le 5 juin 2014. Elle avait été condamnée en première instance pour exhibition sexuelle et dégradation. Et ben là, cette fois, il lui reste bien la dégradation, mais l'exhibition sexuelle a été annulée. Alors elle a toujours après des amendes, des euros à sortir, puisque la cour d'appel a confirmé Yana a versé au musée Grévin plus de 3000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice matériel et 1000 euros pour le préjudice moral. C'est sûr qu'une fémène en train de s'en prendre à une statue de cire, ça a dû leur faire un gros préjudice moral quand même, il faut le dire. Bon, c'est quand même une bonne nouvelle que il n'y ait plus eu cette exhibition sexuelle. Pour la dégradation, bah, qu'est-ce que vous voulez? Oui, ça, on a les vidéos, on ne peut pas y faire grand-chose, elle l'a bien sabotée, même si on était plutôt d'accord avec elle, cette statue de cire de Vladimir Poutine. Et puis, le dernier dont je vais vous parler, qui est face à la justice, c'est John Palais. Bah oui, il est accusé d'avoir volé 14 chaises dans une agence de la BNP à Dax en octobre 2015 avec d'autres. Il dénonçait l'évasion fiscale pratiquée par la BNP. Donc, il doit répondre de vol en réunion. Je vous rappelle aussi que les chaises avaient été rendues, elles avaient été reposées sur l'espace public le jour de l'ouverture du procès pour fraude fiscale de Jérôme Cahuzac. Et il y avait des flics, donc il n'y avait plus qu'à les ramener à l'agence BNP. C'était tout simple. Alors bon, le procureur a clamé une dispense de peine. On saura ça le 23 janvier prochain pour ce qu'il en est. Mais enfin quand même, dans l'idée, ça peut aller à 5 ans de prison et 75 000 euros quand même. Donc il semblerait quand même que du côté judiciaire, on ait compris que c'était un militant. Il va être défendu par Eva Joly. Donc là aussi, on est quand même aussi dans un procès de politique, mais c'est ce que cherche Yon Palais. Il veut mettre ça justement sur la table et pointer du doigt la BNP, qui espère de son côté une condamnation symbolique, puisque le porte-parole du groupe explique que ce n'est pas le problème du vol de chaises qui a fait que la BNP a porté plainte, mais c'est l'intrusion à caractère offensant et violent à l'encontre des clients et collaborateurs de l'agence. C'est vrai que ces faucheurs de chaises sont des vandales qui arrivent et qui hurlent à la mort. Non, pas du tout, c'est des militants qui viennent s'en prendre à une banque qui fait de l'évasion fiscale. Il faut savoir que depuis l'annonce de ce procès, il y a une soixantaine d'opérations qui ont eu lieu dans le même genre. Donc ça fait pas vraiment non plus de la bonne pub à la BNP, ça fait pas non plus de la bonne pub tout court à toutes les banques. Et je propose que maintenant nous attaquions une partie plus internationale.
Oui, avec la conférence qui va s'ouvrir normalement dimanche à Paris pour essayer de trouver une solution au conflit israélo-palestinien. Alors ça fait réagir Monsieur Netanyahou, le Premier ministre israélien, qui a dit, je cite, « Cette conférence est une imposture palestinienne sous les auspices de la France et destinée à prendre encore plus de positions anti-israéliennes. Cela fait reculer la paix et nous ne serons pas liés par les résultats. » Bon, ben voilà, ça c'est clair. Il a dit ça lorsqu'il discutait avec le ministre norvégien des Affaires étrangères. Ça devait être hier ou avant-hier. Et pour continuer dans les propos de Monsieur Netanyahou, il a continué en disant « Cette conférence est une relique du passé, un ultime soubresaut du passé avant l'avènement de l'avenir. » Bon, on s'attendait pas non plus à ce que Netanyahou réagisse positivement. On se rappelle que lui et tout le pays d'ailleurs n'ont cessé de dénoncer l'initiative portée par François Hollande qui a maintenant un an, hein, puisqu'elle a commencé en janvier 2016. Au contraire, les Palestiniens y ont adhéré. Faut dire qu'ils adhèrent à tout ce qui peut essayer de faire avancer le processus de paix, hein, ou tout ce qui peut faire avancer une existence un jour de la Palestine. Donc forcément, ils s'accrochent. Donc la France a contacté à la fois Netanyahou et Mahmoud Abbas, et puis plein d'autres qui vont venir participer à cette conférence. Donc a priori, Mahmoud Abbas a dit oui, donc il devrait être là. Par contre, bon, là, on a bien compris que Netanyahou ne viendrait pas à Paris dimanche pour parler de paix, pour parler résolution de conflits. Alors, on rappelle que il n'y a pas eu de volonté d'effort important sur la paix depuis avril 2014. C'était donc le j'ai perdu son nom, John Kerry, je crois, qui était qui allait en Israël pour essayer de trouver une solution au nom de l'ex-président Obama, mais avec une volonté très faible, hein, et bon, ils avaient rien obtenu. Alors on imagine bien que le pauvre projet français ne risque pas d'avancer grand chose, puisque il y a encore moins de possibilités de pression que l'administration américaine. Les seules micro-avancées ces dernières années, enfin on va dire ces 30 dernières années sur le conflit israélo-palestinien, c'est parce que les États-Unis d'Amérique ont mis pression sur Israël, puisque Israël est quand même ultra dépendant de l'argent américain, parce qu'ils ont des subventions énormes, et donc c'est par ça que chaque fois Israël a lâché des micro-miettes de résolution, des micro-miettes sur des avancées pour la paix. Donc voilà. Alors, en plus, on sent bien que cette conférence, elle va défendre cette idée là qui est aujourd'hui véhiculée par à peu près tout le monde, sauf Israël et ses amis, parce qu'ils ont quelques amis, a priori peut-être un peu Poutine, enfin tous les gens pas très démocrates. C'est une solution à deux États. Donc la Palestine d'un côté, Israël de l'autre, et tel que le demande l'ONU depuis des années d'ailleurs, sur les frontières de 1967. Bon. Alors ça, c'est une solution merdique, mais on voit pas de toute façon ce qui pourrait être négocié d'autre. Hein, l'idéal étant un seul État avec deux entités qui seraient reconnues et un État laïque qui permettrait à toutes les religions d'exister pacifiquement. Bon, ça, c'est un idéal. Bon, c'est encore porté par 12 militants d'extrême gauche israéliens et 5 militants d'extrême gauche palestiniens, et puis quelques militants dans le monde, et c'est à peu près tout. C'est triste, hein, mais c'est à peu près tout. Quant à l'idée de deux États portée par tout le monde, de toute façon, ça a même plus de sens aujourd'hui, puisque c'est Barack Obama qui l'avait rappelé, et il avait totalement raison. À force d'implanter des colonies un peu partout, d'augmenter la colonisation de Jérusalem-Est, hein, c'est les colonies en Cisjordanie et Jérusalem-Est, eh ben, il y a pas de continuité de territoire possible aujourd'hui en Palestine. C'est-à-dire que si, même si à cette conférence Netanyahou signait oui à une création d'un État palestinien sans lâcher sur les colonies, eh ben, la Palestine, elle peut pas exister, puisqu'elle est aujourd'hui morcelée, hein, par les différentes colonies, par les autoroutes interdites aux Palestiniens, des choses comme ça. Donc il n'y a aucun espoir, à moins d'envoyer des casques bleus, hein, ce que l'ONU a jamais eu le courage de faire. Bah ouais, parce que l'ONU, c'est une instance soi-disant démocratique, mais avec 5 pays totalitaires qui imposent un droit de veto, hein, dont la France. Effectivement, toutes les résolutions qui auraient pu exister sur Israël, c'est-à-dire envoyer des casques bleus pour ramener tout le monde sur la frontière de 67, qui sont les frontières officielles, et ben voilà, ça s'est jamais fait à cause des États-Unis d'Amérique et non pas à cause d'Israël, puisqu'Israël, ils n'ont pas ce droit de veto. Donc voilà, on n'a jamais avancé et finalement on se demande si on avancera un jour. Alors, c'est pas tout à fait vrai de dire ça. On peut pas dire qu'on n'a jamais avancé. Tous les jours, tous les mois, ça avance. Mais par contre, ça avance dans l'autre sens. C'est-à-dire tous les jours, tous les mois, il y a des nouveaux colons qui s'installent, soit à Jérusalem-Est, soit en Cisjordanie, et qui grignotent petit à petit le territoire palestinien. Donc voilà, cette conférence devrait confirmer une non-avancée. Alors bon, on peut quand même avoir un petit espoir, on verra ce qui sortira dimanche soir, mais ça sera juste finalement ce qui peut, même s'il sortait une résolution génialissime. De toute façon, si Israël la signe pas, que les États-Unis n'en ont rien à faire et que ça bascule pas sur un truc de l'ONU ou quelque chose comme ça, et on est sûr que ça n'arrivera pas. Bon, finalement, ça sera une conférence juste pour parler d'Israël-Palestine.
Ah, tu vas nous parler un petit peu de Mauritanie, je crois.
Ouais. Ah ben, on va rester dans les pays très religieux. Avec une mauvaise nouvelle sur la Mauritanie. Alors, la Mauritanie, c'est un pays qui a beaucoup reculé. Hein. Alors, c'est un pays qui n'a jamais été avancé sur le droit, sur l'égalité de droit homme-femme, qui n'a jamais été avancé sur la liberté de conscience. Hein. On se rappelle au moment où, finalement, le pays, dans les 40 dernières années, était un peu le plus libre. C'était à la fin des années 90, hein, au milieu des années 90, quand la religion était un petit peu moins prégnante. Alors, certes, officiellement, ça s'est toujours appelé, enfin depuis un certain nombre d'années, la République islamique de Mauritanie. Mais la religion était moins forte. Elle étendait moins ses griffes sur l'ensemble de l'État et sur l'ensemble de la justice. Alors, il y a toujours eu des gros problèmes en Mauritanie. On rappelle qu'il y a une minorité dite arabe, hein, qui vient plutôt du nord de la Mauritanie, qui possède la majorité des biens et surtout qui a toutes les places politiques et qui exploite la majorité noire, elle, issue des tribus Peuls et d'autres peuplades de la région. Donc déjà ça, il y a un climat de discrimination raciste interne à la Mauritanie. Et l'aspect religieux vient rajouter une couche dessus. Et ces dernières années, on a vu que des reculs. Hein, on sait qu'il y a encore de l'esclavage, des esclaves en Mauritanie, parce que, comme le rappellent certains oulémas ou certains croyants, en Mauritanie, c'est la charia qui est appliquée. Et dans le Coran, les esclaves, ça existe. Donc voilà. Alors même si officiellement ils ont aboli l'esclavage, dans les faits, ça existe toujours. Bon, c'est pas tout à fait de ça dont il est question. C'était un micro-projet ridicule au regard de ce qui existe chez nous, mais qui était déjà une avancée, un projet sur le droit des femmes, notamment contre les violences faites aux femmes par les hommes. Hein. Donc ce projet devait être voté. Et alors, c'est ridicule ce qui était dans ce projet, mais c'était déjà une avancée. Les femmes avaient le droit de se plaindre quand elles étaient violées par leur mari, ou des choses comme ça. Bon, chose qui paraît inadmissible, mais qui est... Voilà, bon. Il y avait l'âge du mariage qui était remonté à 18 ans. Enfin, il y avait des choses comme ça. Eh bien, ça n'a jamais été voté au Parlement mauritanien. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu pas mal de critiques de la part des religieux, notamment, qui a fait pression sur le gouvernement, sur le ministre la commission parlementaire de la justice, très exactement, qui ont dit « bon, c'est pas la peine d'essayer de le faire passer au Parlement, ça passera pas ». Et d'ailleurs, tout le monde a rappelé que dans la constitution mauritanienne, en préambule, l'islam est la seule source de droit. Donc on n'a pas besoin de rajouter des lois pour protéger les femmes. Tout l'existence du droit, de la justice, pour les femmes et pour les autres, c'est dans le Coran. Alors ça pose problème, hein, parce que dans cette loi, il y avait le mariage à 18 ans, par exemple, et pas plus jeune. On sait qu'en Mauritanie, des fillettes sont mariées. Hein, alors elles ne sont même pas encore femmes, elles n'ont même pas encore eu leurs premières règles, etc. Hein, mais elles sont déjà mariées. Ça, c'était une avancée. Alors ça, ils se sont beaucoup opposés là-dessus, forcément. Hein, de ne plus pouvoir marier les petites filles, ils n'étaient pas d'accord. Alors tout le monde y allait. Hein. Y a un théologien assez connu qui s'appelle Abdelahi Ould Cheikh Ahmed, qui a hurlé. Alors lui, il a hurlé sur ça et sur des points de détail. Alors il y a un petit point de détail qui est drôle, si ce n'était pas horrible. Dans le projet de loi, l'adultère donc était partagé homme-femme. Donc si une femme était trompée par son mari, les peines pouvaient aller jusqu'à l'exécution par coup de feu. Et le mec, il a dit non, c'est pas possible. Dans la charia, quand il y a adultère, alors c'est la femme qui meurt, et c'est sous la lapidation. Point. Pas d'autre alternative. Ça montre un peu le degré d'avancement de ces religieux. Ils respectent à la lettre leur texte qui n'est pas sympa pour les femmes. Donc forcément, ça va loin. Alors, ils sont allés... Alors, ce qui les a en plus gênés, et ce qui est assez, c'est pareil, c'était assez drôle parce que je ne suis pas sûr que ce soit volontaire, c'est que dans le texte d'origine, au lieu d'utiliser le mot femme, ils ont utilisé le mot genre féminin, et le mot genre. Et là, ça a été la plus grosse, finalement, opposition à ce texte. C'était l'utilisation d'un mot, le mot genre, parce qu'il disait, ah non, mais ça va pas. Là, ça veut dire que derrière ce texte, il y en a qui pensent aux homosexuels et aux transsexuels. Et ça, c'est interdit par l'islam, ça doit être puni de mort. Oula. Bah oui, c'est écrit dans le Coran. Donc ici, ils respectent leur Coran, ils vont jusqu'au bout. Et bon voilà, ils sont allés. Et ils ont condamné effectivement ce texte qui, d'après eux, était une transposition aveugle des valeurs occidentales. Comme si de faire une loi qui protège les femmes de la violence des hommes, c'est ce qu'ils disent, une valeur occidentale. Bah oui, on veut bien l'accepter, c'est peut-être une valeur occidentale, et donc c'est pas une valeur mauritanienne, c'est pas une valeur islamique, hein, puisqu'ils se servent du Coran, hein, pour justifier toutes les choses. Voilà. Alors j'ai cité quelques théologiens, quelques croyants. Il y a l'imam de la grande mosquée de Nouakchott, hein, qui s'appelle Ahmed Ould Lemrabot, qui a pris la parole la semaine dernière, vendredi dernier, lors de la grosse prière, hein, du vendredi. Et il a dit, bah oui, il faut rejeter parce que certaines parties du texte sont contraires aux dispositions de la charia. Et là, il a redit, bah la balle est dans le camp du gouvernement, maintenant c'est à vous de modifier le texte. Or, le gouvernement est coincé, parce que si jamais ils veulent faire un texte qui respecte la charia, c'est-à-dire qui respecte ce qui est écrit dans le Coran, eh ben, il n'y a pas de loi pour protéger les femmes. La loi ne peut pas exister. Je rappelle que dans le Coran, la femme doit se soumettre à l'homme. L'homme a le droit de tuer sa femme si elle se rebelle. C'est-à-dire si elle dit non, si elle n'est pas d'accord. Donc j'ai dit droit du viol, droit de taper sa femme, droit de la répudier pour différentes raisons. Enfin bon, en fait ils sont effectivement coincés tant que c'est un régime religieux et que ils sont littéralistes, c'est-à-dire qu'ils disent on applique ce qui est écrit dans le Coran. Malheureusement, il ne pourra pas y avoir de loi de protection des femmes contre les violences des hommes. Et c'est triste, hein, parce qu'il y a eu ce petit projet qui laissait à penser qu'il y avait une émancipation un petit peu du texte, de tout ce qui était écrit dans le Coran, et qui passait à un stade supérieur en disant on est moins littéraliste, et effectivement c'est pas normal qu'un mari viole sa femme, c'est pas normal de marier une petite fille de 4 ans, c'est pas normal de taper sa femme parce qu'elle a dit non à quelque chose, etc. Et ben non, aujourd'hui c'est pas possible en Mauritanie. Peut-être qu'il y a 15-20 ans ça aurait peut-être été possible encore, c'était même pas sûr. Voilà, un pays ultra réactionnaire. On rappelle que ces religieux sont tous d'extrême droite, hein, puisque c'est bien évidemment pas des idées progressistes qui sortent de leur bouche ou de leur texte religieux. Voilà, c'est triste parce que il y a quand même des femmes qui ont dû y croire un petit peu.
Alors, on va parler de toute autre chose, on va parler de t'automobile. Nous allons partir à Détroit. Depuis le 9 janvier se tient le grand salon annuel. Donc à Détroit, une ville du Michigan aux États-Unis d'Amérique. Et évidemment, ce salon a une petite saveur différente, hein, puisque vous avez certainement entendu parler des propos de monsieur Donald Trump sur les délocalisations au Mexique des usines de production automobile et ça demande pas toujours très délicate de rapatrier ses usines aux États-Unis. Donc c'est évidemment tout ça au centre des discussions. Donc c'est un salon, hein. Donc vous avez des voitures qui sont cette année très très aux couleurs des États-Unis d'Amérique. Et on voit beaucoup du bleu, du blanc, du rouge et des petites étoiles. Alors c'est assez habituel, vous allez me dire, hein. On les retrouve même sur les bottes de cow-boy. Mais là on sent quand même que tous les constructeurs ont mis le patriotisme de leur côté. Alors pour revenir un petit peu sur les réactions des constructeurs, on a Ford qui a annoncé le 3 janvier renoncer à une nouvelle usine au Mexique, usine qui devait fabriquer des petits modèles d'automobiles. C'était un projet à 1,6 milliard de dollars et Ford a décidé de développer à la place une usine de véhicules électriques au Michigan. Alors Donald Trump était très fier de lui puisqu'il avait attaqué Ford, hein, et donc il s'est quand même attribué le mérite de cette nouvelle stratégie du groupe Ford. Alors en vérité c'est pas tout à fait ça, hein. Ce qu'il faut bien comprendre de cette usine à 1,6 milliard de dollars, c'est qu'en fait Ford n'en voulait plus, tout simplement. C'est une usine dont le projet avait été établi il y a déjà quelques temps, et entre-temps le marché des petites bagnoles s'est effondré aux États-Unis d'Amérique. C'est les pick-up, hein, qui en ce moment, ça a déjà été le cas, mais ont vraiment la cote. Donc d'un seul coup, Ford s'est dit, gardez cette usine pour construire des voitures qu'on n'arrive pas à vendre, c'est un petit peu emmerdant. Donc du coup, Ford est bien bien content de l'intervention de Donald Trump, parce que ça lui permet de faire passer cette décision économique, se débarrasser de cette usine, pour une décision patriotique. Nous sommes derrière notre président tout juste élu. C'est pas du tout ça, hein. C'est bien une décision purement économique. Alors on a du côté de Fiat Chrysler une annonce pour rapatrier aux États-Unis la production d'un pick-up qui créait 2000 emplois. Houhou, ça va sauver le chômage aux États-Unis, bien évidemment. Alors Donald Trump s'en est aussi pris à Toyota, qui a annoncé un énorme plan d'investissement sur le territoire des États-Unis d'Amérique. Par contre, Toyota a fait savoir qu'il garderait ses productions au Mexique, hein, a priori de jouer un petit peu sur les deux tableaux, mais Toyota en même temps espère bien vendre plus de voitures sur le territoire nord-américain. Du côté de General Motors, on a annoncé que Donald Trump, globalement, il pouvait aller se faire voir. Bon, ça, c'est pas ce qu'elle a dit Marie Barra, la patronne de General Motors. En tout cas, elle l'a pas dit comme ça, mais elle a expliqué qu'elle pouvait pas annuler des projets d'investissement prévus au Mexique depuis plusieurs années. Ben non, ça, on faisait pas ça comme ça, hein. C'est bien la preuve que Ford, qui avait un investissement de longue date, a renoncé un petit peu facilement quand même. Donc on voit bien que derrière, il y a bien des raisons économiques. Du côté de la Fédération des constructeurs allemands, il y a eu une annonce pour rappeler que Daimler, BMW et Volkswagen avaient quadruplé la production de véhicules aux États-Unis entre 2009 et 2016. Donc, ils se positionnent comme de bons élèves. Pourtant, Matthias Wiesmann, le président de la Fédération des constructeurs allemands, a expliqué que ça serait une mauvaise idée de remettre la position des États-Unis d'Amérique au sein de l'ALENA. Vous savez, c'est l'association de libre-échange nord-américain. Pourtant, c'est bien ça le projet de Donald Trump, c'est de quitter l'ALENA, de quitter ce traité pour faire revenir les usines automobiles sur le sol des États-Unis d'Amérique. Alors évidemment, on se dit, oui, c'est bien beau de vouloir remettre aux États-Unis d'Amérique la production, puisqu'évidemment, tout le monde va au Mexique parce que la main-d'œuvre, elle est pas chère, hein, ça, on est bien d'accord. Sauf que du côté du gouvernement mexicain, on s'énerve un peu. C'est le quatrième pays exportateur de véhicules légers dans le monde, septième fabricant mondial de voitures. Il n'y a pas de constructeur, hein, au Mexique national. Comme nous, on a Renault, Peugeot, tout ça. Donc, ce sont des marques qui viennent en fait créer des usines là et qui, pour les réexporter derrière, hein. Donc, on est bien dans la mondialisation. C'est pas très intéressant comme système économique. Reste qu'effectivement, bah là, ça va aussi recréer du chômage côté Mexique. Donc, le gouvernement mexicain pourrait saisir l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, si les barrières douanières dépassent un certain seuil, parce qu'il y a des réglementations qui fait que si Monsieur Trump il s'emballe un peu, eh ben, il risque d'avoir des petits problèmes avec l'OMC. Alors tout ça pour l'instant reste quand même des discours de diplomatie. Chacun essaye de prendre ses marques. On va voir ce que M. Trump a vraiment l'intention de faire. Et finalement, on peut se demander, ses intérêts, ils sont où dans tout ça? Parce que c'est pour l'instant ça qui semble mener sa politique, en tout cas celle qui va le mener d'ici la fin, enfin à partir de la fin janvier. Et puis, pour terminer sur le vroom vroom, c'est Volkswagen qui a accepté de plaider coupable de fraude et de verser des pénalités supplémentaires aux États-Unis dans le cadre du scandale des moteurs diesel truqués, hein, vous vous souvenez de tout ça. Pour Volkswagen, bon bah c'est bien d'avoir eu cette négociation, cet accord qui soit trouvé maintenant, parce que c'est avant l'arrivée de M. Trump et de son administration. Donc au moins ça s'est fait, il n'y a plus à engager une nouvelle discussion avec de nouveaux responsables. Et puis ça permet surtout à Volkswagen de classer la ferme. Alors par contre, il faut bien dire que Volkswagen sort quand même un petit peu le chéquier, puisque Volkswagen va devoir verser une amende de 4 milliards 300 millions de dollars qui s'ajoute aux 17 milliards 500 millions de dollars de dommages et intérêts que Volkswagen va devoir verser aux autorités, aux clients et aux concessionnaires. Il y a des calculs qui ont été faits de ce que ça pourrait coûter pour l'instant à Volkswagen. On parle de 30 milliards de dollars, hein, c'est quand même des sommes assez importantes. Alors, c'est pas pour autant que Volkswagen est sorti d'affaires, puisque il y a d'autres plaintes qui sont en train d'arriver, qui sont en train de rattraper Volkswagen, d'autant plus que les médias allemands ont fait savoir que la direction de Volkswagen avait été informée de la tricherie bien avant que l'affaire ne soit connue. Hein, vous souvenez, à un moment, on avait dit que c'était en fait les cadres sup, mais pas tout à fait en haut, qui avaient pris des décisions sans la grande direction. Bah, a priori, les médias allemands sont en train de nous dire que non, non, ils étaient bien au courant. Je ne sais pas si on doit être surpris, en fait. Je vais dire non.
On va parler un peu de justice maintenant avec la surprise du jour, puisque c'était une véritable surprise en début d'après-midi. L'Assemblée nationale devait voter une proposition de loi pour allonger la prescription des crimes et délits, donc prescription qui est écrite dans la loi depuis un certain Napoléon, donc ça fait plus de 200 ans, et c'était plus vraiment d'actualité aujourd'hui. Alors non seulement certains crimes sont peu poursuivi à cause de ce délai de prescription, ça peut être le cas des fraudes fiscales, des agressions sexuelles ou des choses comme ça, mais en plus voilà, on était vraiment largué par rapport au progrès de la recherche scientifique qui sert un peu de base aux enquêtes de la police et de la justice. Donc le projet était porté par deux députés. Le député Georges Fenech, qu'on connaît bien, hein, qui est un député du Rhône, qui est à droite, on peut le dire, hein, puisqu'il est membre des Républicains, à droite-droite hein, quand même. Et le député du Calvados, Alain Touret, qui lui est du Parti radical de gauche, donc qui est plutôt au centre-gauche, on va dire. Donc c'est une loi, comme on dit, transpartisane, c'est-à-dire tout le monde est d'accord, hein, ça se négocie ensemble, et ils étaient tous d'accord pour réformer cette prescription à partir du moment où on ne peut plus poursuivre quelqu'un pour un délit ou un crime commis. Et ça doublait grosso modo à peu près toutes les durées de prescription. Donc effectivement, hein, tout le monde était d'accord, la justice était d'accord, les avocats, tout ça, c'était bien parti. Ça avait été voté une première fois, vous savez comment ça marche, hein, première fois au Parlement, ça passe ensuite au Sénat, c'est revoté au Sénat, et là c'était le retour à l'Assemblée pour le vote définitif. Et bien c'est pas passé. Les députés socialistes ont refusé de voter le texte. Il faut dire, que la droite y est allée de son entourloupe. Puisque la droite ont modifié le texte, alors la droite c'est au Sénat, hein, ils ont modifié le texte et ils ont rajouté un amendement qui augmente le degré de prescription pour les infractions de presse. Alors ça, si on est d'accord hein, pour dire ok, il faut augmenter les délais de prescription sur les viols, les agressions, les délits fiscaux, etc. Mais par contre sur les infractions de la presse, non. Puisque c'est un énorme moyen de pression des gouvernements sur la presse, c'est possible poursuite en justice pour des infractions. Donc ils l'ont fait exprès, les députés, enfin les sénateurs de droite, de voter cet amendement. Alors, on ne sait pas quel est le but. Si c'est pour mettre la pression sur la presse, bon, alors là, je me dis, ils sont un peu bêtes. Dans 6 mois, ils sont au pouvoir, ils pourront mettre tout ce qu'ils veulent sur la presse. Ils seront majoritaires à l'Assemblée et au Sénat, ils le sont déjà au Sénat, je ne vois pas pourquoi ils s'embêtent. Bon, soit ils voulaient faire capoter, en fait, il y a certains députés qui voulaient faire capoter le projet, malgré tout. Et ils l'ont fait de manière sournoise. Alors ça a énervé des gens du PS et ça a énervé le Georges Fenech, mais on se demande s'ils sont pas tous en train de simuler et que si c'était pas finalement quelque chose qui était voulu. En tout cas, le choix du Sénat de voter cet amendement, il savait que ça allait coincer au retour. Alors, il savait, pourquoi il savait? Parce que quand il a été voté, il y a eu des réactions de la presse. Et ça fait notamment plusieurs jours qu'il y a des réactions. En disant, attention, le droit de la presse est attaqué. Effectivement, le droit de la presse était attaqué. Avec, puisqu'on passait, donc les infractions, c'était sur une mauvaise information, une fausse information, où on risquait, le délai de prescription était de 3 mois. Là, il est multiplié par 4. Il passait à 1 an. Hein. Donc, c'était quand même un truc très important. Donc voilà, c'est au nom de la liberté de la presse que les élus PS ont refusé de voter ça. Et je pense qu'ils ont eu quelque part raison, parce qu'il y a une belle entourloupe quand même du Sénat d'avoir ajouté cet amendement. Alors maintenant, reste à savoir quel est le vrai but de cet amendement, puisqu'on n'a pas la réponse. On constate juste que ça fait échouer cette loi qui semblait quand même pas mal utile.
Alors, on va revenir sur les Wildenstein. Vous vous souvenez peut-être, on vous en avait parlé. Cette famille extrêmement riche, dont la fortune a été placée dans des paradis fiscaux, et qui s'est retrouvée au mois d'octobre dernier, pendant 4 semaines, sur le banc des accusés. En tout cas, pour ceux et celles qui sont toujours en vie. Je vous avais expliqué à l'époque que c'était les veuves, les femmes de la famille, qui s'étaient estimées lésées spolié par les autres hérités mâles qui avaient balancé tout plein d'informations aux enquêteurs une première fois, puis une deuxième fois, histoire de bien les enfoncer. La procureure Monica D'Onofrio avait requis contre Guy Wiegelstein, le principal accusé, 4 ans d'emprisonnement, dont 2 avec sursis et 250 millions d'euros d'amende. 1 an de prison avec sursis contre Lyuba Spukova. Et puis, il y avait des avocats qui étaient aussi visés. Un autre héritier, Alex Junior. Et ben, tout ça a été relaxé. Et oui. Pourquoi ? Pourquoi ? Alors, déjà, il faut savoir que tout le monde est d'accord, la famille a triché. Mais pour autant, on ne peut pas les condamner. C'est un peu ce qu'explique le président Olivier Géron, le président du tribunal. Alors, il s'est un peu agacé, parfois. Il a estimé que les enquêteurs n'avaient pas vraiment pu aller fouiller en profondeur dans les affaires de la famille. Bon, il faut dire qu'en même temps, aller s'adresser à des paradis fiscaux, c'est pas vraiment facile. Et c'est aussi un peu énervé de cette loi de finances de 2011 qui, maintenant, oblige les héritiers à faire certaines déclarations et à ne plus pouvoir se soustraire à la loi aussi facilement, sauf que les faits sont antérieurs, donc ça ne pouvait pas s'appliquer. Mais par contre, il s'énerve aussi parce qu'il dit que c'est un peu tardif, malgré tout, parce que c'est pas nouveau. Le fait que dans les riches familles, on fasse joujou avec les héritages pour éviter de payer trop d'impôts, ou d'en payer... pas du tout d'ailleurs, hein. C'est un petit peu ça aussi l'idée. Et puis il y a un manque de preuves parce qu'en fait le procès il a permis d'explorer la fortune David Einstein, mais pas vraiment de la saisir. On parle quand même de biens immobiliers, on parle de chevaux de course, on parle de tableaux. Tout ça c'est disséminé aux quatre coins du monde parce que toute la famille en a des petits bouts. Il y a des sociétés écrans enregistrées dans les paradis fiscaux, dans ces fameux trusts. Donc ça aide finalement, on peut dire que tout le monde a eu un peu du mal à cerner exactement le gouffre de cette fortune. Par contre, là, ce qu'on est bien sûr, c'est qu'ils se foutent tous sur la gueule entre héritiers. Ça, on le savait avant. Les audiences ont bien fait remonter tout ça à la surface. Plus personne ne semble vraiment se parler dans l'affaire. Reste que voilà, il n'y a pas assez de preuves, une loi trop tardive, des enquêteurs qui peuvent rien faire, et une famille qui est extrêmement bien accompagnée pour pratiquer son évasion fiscale. Alors que, comme je vous le disais tout à l'heure, tout le monde est d'accord pour dire qu'ils ont triché. La procureure, Madame D'Onofrio, avait qualifié les faits de fraude fiscale la plus sophistiquée, excusez-moi, et la plus longue de la 5e République. C'est tout pour vous dire que c'est quand même une fraude extrêmement massive. Et que voilà, relaxez. Une autre justice.
Alors, on va parler un peu d'économie et analyser deux petits rapports qui sont sortis aujourd'hui. Alors, le premier rapport, c'est le COE. Le COE, c'est le Conseil d'orientation pour l'emploi. Donc, c'est une instance qui est rattachée au Premier ministre et qui analyse l'impact de l'automatisation et de la robotisation sur les emplois dans un avenir relativement proche et moins proche. Et leur conclusion est assez surprenante puisqu'ils disent que moins de 10% des emplois sont très exposés aux mutations technologiques et présentent donc le risque d'être supprimés par le développement de l'automatisation et de la robotisation. Alors après, ils analysent un petit peu qui est touché. Donc c'est, comme ils le disent, ça touche souvent des métiers manuels et peu qualifiés, notamment les agents d'entretien, les caissiers, les caissières, des métiers comme ça. Ce qui est bizarre dans ce rapport, et ce que dit Marie-Claire Carrière-G, c'est son nom. Elle dit « Notre rapport met en garde contre des analyses frustrées et partielles qui ne s'intéressent qu'aux destructions brutes d'emplois et contre l'idée que le progrès technique s'attaque à des métiers dans leur globalité. Non, il y a un impact sur le contenu de certaines tâches. » Bon, d'accord. Mais, ils expliquent, elle dit après, « Elles feront des choses différentes, ces personnes. Et les évolutions vont dans un sens de complexification et d'addition de compétences. » Et c'est là où, à mon avis, le rapport est totalement biaisé, et que c'est un rapport d'économiste qui est là pour faire croire qu'on vit dans le monde des bisounours. Parce que d'abord, moins de 10% des emplois sont très exposés, ça me paraît très irréaliste, au vu de nombreuses études qui ont déjà eu lieu sur ce sujet-là. Et croire que des gens qui ont ces métiers peu qualifiés, hein, les gens qui font le ménage, donc les agents d'entretien, des choses comme ça, les ouvriers non qualifiés et les caissiers ou les caissières, ils vont pouvoir apprendre, comme elle dit elle-même, hein, des métiers beaucoup plus complexes qui se complexifient. Ils vont se mettre à programmer les robots qui font le ménage à leur place. Non, mais ils se foutent de notre gueule. Hein. On sait très bien que ces métiers-là sont des métiers, effectivement, qui permettent à des gens qui n'ont aucune qualification, aucune compétence, de les faire. Et ça sauve ces personnes-là. Alors certes, on pourrait se dire, c'est pas ce que dit le rapport d'ailleurs, mais on pourrait dire, toute personne est capable d'avoir des compétences et d'apprendre des choses. On est d'accord. Sauf que il faudrait réformer beaucoup de choses pour permettre enfin à tout le monde d'avoir un niveau de connaissance et de compétences intéressant pour pouvoir accéder aux emplois dits technologiques, dits évolués, enfin on les appeler comme vous voulez. Et là, ça me paraît très hypocrite ce qu'ils disent, est complètement déplacé quand on voit les personnes qui se retrouvent à faire ces métiers-là, des gens qui sont issus d'une immigration récente, hein, qui parlent pas toujours bien la langue du pays où ils se retrouvent du jour au lendemain. Hein, si vous regardez un peu, notamment dans l'entretien, enfin le ménage, on voit mal ces gens-là, même avec une grosse formation, vu ce qu'ils ont vécu avant, vu le peu d'école qu'ils ont eu, souvent. Parce qu'ils ont des situations qui sont critiques depuis 10, 15, 20 ans et qu'ils n'ont pas été forcément à l'école quand ils étaient petits dans leur pays. Comment ils pourraient devenir programmeurs de robots, hein ? Je veux dire, ça paraît être complètement irréaliste. Et puis c'est ce chiffre de 10% qui paraît complètement sous-estimé. Parce que on regarde les métiers, oui, caissière, tout va être automatisé. Bon, enfin, tout peut être automatisé. D'ailleurs, déjà, ça pourrait l'être, mais ça l'est pas encore. D'accord, mais ça va quand même faire du monde, hein. Les secrétaires, ils en parlent pas, mais ça commence déjà à diminuer le métier de secrétaire, parce qu'effectivement avec les traitements de texte, il y a dans les petites entreprises, les petites structures, il y a plus de secrétaires. Hein, c'est la personne qui fait son travail, qui en plus passe un certain pourcentage de son temps à faire du secrétariat, hein, parce que répondre aux mails, donc c'est-à-dire aux courriers, bon voilà, ça a beaucoup diminué le travail des secrétaires, et ça pourrait disparaître. Sur l'aide à la personne, on sait qu'il y a des robots qui arrivent. Là, c'est 50% du travail qui est possiblement supprimé, donc ça fait beaucoup. Dans les transports, on peut imaginer que d'ici 20 ans, si les progrès vont à la vitesse où ils vont aujourd'hui, eh ben, qu'il n'y ait plus de conducteurs de train, qu'il n'y ait plus de conducteurs de métro. Alors, on rappelle qu'il y a des conducteurs de métro, non pas pour des raisons techniques, mais pour rassurer les gens, hein, parce qu'il n'y a plus besoin de conducteurs de métro. Hein, les métros automatisés, ça marche très bien, on sait très bien faire. Hein. Ça va passer sur les bus, sur les voitures, sur les taxis, sur tout ce qu'on veut. Non, le perte potentiel d'emploi, il est énorme. Hein. Et il a toujours été énorme. Et il a toujours été minimisé. Si on regarde ce qui s'est passé à la fin des années 70, au début des années 80, les systèmes politiques ont toujours accusé les délocalisations d'avoir tué l'emploi en France, par exemple. Effectivement, on a beaucoup délocalisé d'usines. Sauf que, en fait, l'emploi avait été détruit avant. Parce que c'est l'automatisation qui a détruit l'emploi. Et un petit exemple. Une entreprise, une grosse entreprise, dans l'Isère, qui fabrique des moteurs. Donc, il faut bobiner un moteur électrique. C'est du fil électrique qu'on bobine. Voilà. L'atelier de bobinage, 20 personnes, 20 femmes, parce que c'était des femmes qui le faisaient, plus un technicien qui gère l'atelier. 10 ans après, un technicien, 0 femme, 0 employé. Il reste qu'un technicien. Tout est automatisé. Il délocalise. Ah oui, on perd un emploi, mais on en avait perdu 20 par l'automatisation. Voilà. Alors, ça, c'est inévitable, et c'est pas forcément un mal. Parce qu'on peut s'opposer, comme les ludites, hein, en Angleterre, à une autre époque, à l'automatisation. Mais même si on l'accepte, l'automatisation, on détruit des milliers de postes, des millions d'emplois. C'est pas grave. Parce que finalement, si ça s'accompagne d'une réduction du temps de travail, ça pose aucun souci. Et on peut imaginer, comme Isaac Asimov dans certains de ses romans, qu'à la fin, on travaille presque plus. Il reste une partie créative, on fait ce qu'on a envie de faire. Et effectivement, c'est des robots qui travaillent à notre place. Et si on a une journée de travail dans la semaine, eh ben c'est bien, hein, on y gagnerait. Sauf que l'automatisation, elle n'a pas fait ça. L'automatisation, elle a, parce que c'est les patrons, ils ont continuer à faire pression pour qu'on travaille autant. Et du coup, ça a effectivement tué tué des personnes. Indirectement, oui. Mais parce qu'on a toujours des suicides, des choses comme ça, mais ça a tué l'emploi. Donc voilà. Donc ce rapport, moi, je trouve qu'il va encore dans ce sens-là, en étant idyllique, en étant un rapport de bisounours. Et oui, non, il faut accepter l'automatisation, la robotisation. Ça détruit énormément d'emplois qu'on peut compenser avec la réduction massive du temps de travail et pas 4-5 heures par-ci, par-là. Alors, deuxième rapport, qui est un peu critiquable, mais beaucoup moins lu par contre, sur la transition écologique et l'emploi que ça peut créer. Donc, c'est un rapport qui est disponible sur Internet, qui est un gros rapport qu'on peut trouver sur le site de Reporter, notamment, le site écolo, présente l'impact sur l'économie si jamais on change de modèle industriel, notamment de modèle de transport, enfin bref, qu'on fait de la transition écologique. Alors ils ont essayé, et c'est là où c'est moi je trouve, bon, leurs chiffres ils sont ce qu'ils sont, mais voilà, c'est un peu discutable, ils ont essayé de voir l'impact sur plein de secteurs. Alors par exemple, la transition écologique d'après eux, ce qui me semble effectivement correspondre à d'autres chiffres donnés par des gens qui ne sont pas du tout écolo, ça pourrait créer 350 000 emplois dans le bâtiment. Parce qu'effectivement, il y a une énorme quantité de travail pour rénover les bâtiments, pour les isoler. Il y a très peu d'immeubles vraiment bien isolés en France, notamment dans l'habitat HLM, enfin, à loyer contrôlé, modéré et autres. Parce que ça a été construit dans des années où on n'isolait pas, dans les années 60-70. Donc là, effectivement, il y a beaucoup d'emplois. Dans les énergies renouvelables, ils annoncent, eux, 330 000 emplois possibles. Effectivement, ça paraît logique. Bon, ils font une somme, ils arrivent à 1 400 000 emplois. Sauf que dedans, ils rajoutent beaucoup d'emplois publics. Et c'est là où c'est un peu critique, parce que l'emploi public, c'est pas forcément la seule solution. L'État n'est pas l'employeur qui doit tout faire. Alors, on le voit, administration publique, qui prévoit 100 000 emplois. Activité des organisations associatives, 80 000 emplois, mais les associations, elles vivent essentiellement d'argent public. Faut quand même, surtout les associations écolo, enfin voilà. Bon, il y a quelques trucs qui sont discutables. Après, ils mettent tous les chiffres de destruction de l'emploi. Dans tout ce qui concerne les produits pétroliers, la fabrication de voitures, le transport aérien, et ils arrivent à un chiffre de 1 million d'emplois. Alors, moi j'ai l'impression qu'ils ont tout fait pour qu'on arrive à 1 million d'emplois. Parce que c'est bizarre, mais en 2014, en Angleterre, ils avaient fait un rapport, et ça s'appelait 1 million climate job, et ils trouvaient le même chiffre. Donc moi, alors que c'est pas un pays qui est totalement de la même taille, qui a pas du tout la même économie, l'industrie est beaucoup moins développée aujourd'hui en Angleterre, c'est très différent. Ça me paraît quand même un peu chelou d'avoir un rapport qui tombe sur le même chiffre. Alors ça va dans le bon sens, c'est globalement juste, mais un peu approximatif, et à mon avis, ils ont tout fait pour arriver à la belle conclusion qu'ils voulaient, c'est 1 million d'emplois. Quoi qu'il arrive, et ce qui est vrai, même si le chiffre ne l'est peut-être pas, c'est qu'effectivement, la transition énergétique, au niveau du capitalisme, peut être positive. Au niveau du capitalisme, ça a discuté, parce qu'on pourrait mettre, on peut le faire de manière non capitaliste. Mais par contre, en création d'emplois, on est sûr que c'est positif. Pour fabriquer l'électricité renouvelable, il faut beaucoup plus d'hommes. Enfin, d'hommes au sens, avec un grand H, de salariés. Que dans l'industrie nucléaire. L'industrie nucléaire, ce qui coûte cher, c'est l'infrastructure. Alors que dans le renouvelable, ce qui coûte cher, c'est l'humain, parce que les installations sont plus nombreuses, donc il y a plus de personnes pour la maintenance, plus de personnes pour contrôler, etc. Donc effectivement, il y a une réserve d'emploi, entre guillemets, pour parler comme les économistes capitalistes, importante dans le renouvelable. Voilà, ça part d'une bonne idée. Bon, à mon avis, ça va pas assez loin sur plein de domaines, et puis ça remet pas en cause le capitalisme, et là, c'est quand même quelque part un petit peu triste, tout ça.
Alors on va parler grippe aviaire. Vous savez que depuis le 5 janvier, dans 187 communes, il y a un abattage massif préventif de canards élevés en plein air qui s'est mis en place. Sur 3 700 000 volailles jugées à risque, il y en a pour l'instant 1 600 000 qui ont déjà été abattues en France. La grippe aviaire, elle n'est pas qu'en France, elle est dans plein d'endroits en Europe. En Bulgarie aussi, ils sont bien touchés.
Je crois qu'ils ont aussi des l'élevage industriel. Un
c'est
peu.
Ça. Mais nous allons y venir. Tu as bien compris mon propos. Cette année, nous avons droit à la souche H5N8. L'année dernière, nous avions eu la H5N1. Mais la H5N1, on la trouve encore, hein, puisque dans les Deux-Sèvres, il y a 7500 volailles qui ont été abattues et cette souche qui a été retrouvée. Alors bon, il y a tout un tas de choses qui ont été mises en place. Il y a eu une réunion hier organisée par le ministère de l'Agriculture. La chasse a été interdite dans plusieurs communes. Alors, bon, ce qu'il faut se rendre compte, c'est évidemment, elle aussi dans un secteur industriel, comme tu le dis. Et dès le départ, début décembre, avec ce nouvel épisode de la grippe aviaire, il y a eu des affrontements, on peut employer le terme, je pense, entre les professionnels de la filière du foie gras. Alors, d'un côté, vous avez ce qu'on va appeler une filière courte, un producteur qui achète son caneton, qui l'élève, le fait grandir, le gave, hein, parce que oui, c'est ça le foie gras, et puis qui va le transformer et qui va parfois même vendre son foie gras, mais en tout cas il va jusqu'à la transformation. Et puis vous avez une autre filière qui est mise en place par les grandes coopératives comme Ralis, Maïsédour et Vivadour, et qui vont diviser le travail. Donc vous avez le reproducteur, la couveur, l'éleveur, le gaveur, le créateur du foie gras. Vous voyez, tout ça c'est bien partagé. C'est une filière intégrée, c'est comme ça que ça s'appelle, qui gère la majorité hein, des 37 millions de canards élevés en France. Il y a 19 000 tonnes de foie gras hein, produits en France, quand même c'est beaucoup, il faut le dire. Hein, je comprends que les végans ne soient pas contents. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on utilise plutôt le canard et plus trop l'oie, parce que l'oie c'est chiant. Élevé, ouais. Il paraît que c'est plus compliqué. Alors on utilise aujourd'hui le canard mulard, il est stérile et adapté à l'élevage en plein air. Oui, déjà là, vous commencez à comprendre que la production est quand même bien bien organisée. Et il faut savoir que tout ça, c'est tellement bien organisé que... il y a une grosse organisation qui s'est faite et il y a des critiques justement sur ce système des grosses coopératives, excusez-moi. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui dans cette pandémie de la grippe aviaire, c'est que n'importe qui s'approche d'un animal malade, infecté, peut répandre la maladie de partout. Il s'agit d'une plume, d'une fiente sur une botte. Il s'agit de pas grand-chose. Et cette filière intégrée, elle n'aide pas vraiment à calmer la pandémie, puisque en fait, ça se balade tout ça.
Oui, à chaque étape, en fait, on prend les milliers de canards, emmène. C'est celui qui fait l'étape suivante.
C'est ça.
Donc il y a beaucoup de contacts avec des gens, beaucoup de transports, et les risques sont énormes. Et dans les exploitations où tout se fait sur le même lieu, il y a très peu de contamination, voire pas, avec la grippe aviaire. Donc la grippe aviaire, ils accusent, elle arrive par des contacts, on ne sait pas, avec des oiseaux migrateurs ou pas, mais en fait, l'épidémie, elle n'existe que parce qu'on est dans un processus industriel, avec séparation, où l'élevage, il est séparé en 12 étapes, et les 12 étapes sont faites par 12 personnes différentes, dans 12 lieux différents, avec donc 10, 11, 12, 13 transports de volailles. Et c'est ça qui est responsable de l'épidémie. Pas de la grippe elle existe, mais sans tout ça, la grippe ça ne devient pas une épidémie. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un ou deux canards contaminés, mais ça ne va pas dans l'élevage d'à côté. Ça va pas dans la ville d'à côté, ça va pas dans le département d'à côté. Donc voilà, effectivement, c'est bien le processus industriel qui est responsable de la pandémie actuelle.
Bah d'ailleurs, les nouvelles mesures de biosécurité visent la production industrielle, hein, puisque il y a une interdiction, de mélanger les animaux de différents âges. Il y a une désinfection des cages obligatoire, le nettoyage des camions. Tout ça, ça vise les industriels, hein, tout simplement.
Mais tout ça, c'est inutile si finalement on faisait une loi qui disait le canard, il doit avoir tous les stades au même endroit sans se déplacer. Et là, il n'y aurait plus du tout de contamination.
Alors, il paraît que dans le Gers, on trouve des panneaux H5N8, merci Vivadour, qui est donc l'une des grosses coopératives. Alors, tout ça remonte au mois de novembre. Dans le Tarn, un éleveur constate que ses canards sont malades, qu'ils meurent, et donc il commence à avoir une suspicion. C'était le samedi 26 novembre. Le 28 novembre, la grippe aviaire est suspectée. Des analyses qu'il confirme le jeudi 1er décembre. Mais entre-temps, les canards de l'élevage d'un autre élevage qui étaient à quelques centaines de mètres, est partie en direction de 3 autres départements. Et donc, globalement, vous l'aurez compris, des éleveurs indépendants accusent Vivadour d'être responsable de la propagation de la maladie, puisque l'exploitant sont des adhérents de Vivadour, de cette coopérative qui organisait le transport. Alors, entre-temps, il y a eu des plaintes contre X qui ont été déposées. L'une par le président de la coordination rurale 47, Patrick Frenken, et l'autre par Serge Bousquet-Cassagne, le président de la Chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne. C'était le 19 décembre dernier. Une plainte contre X pour escroquerie et tromperie sur la marchandise et pour manquement à l'obligation de prudence et de sécurité. Alors, c'est contre X, hein, pour l'instant. Ce que les deux personnages souhaitent, c'est qu'il y ait une enquête qui soit menée. Pour rappel, juste Serge Bousquet-Cassagne, son nom vous dit peut-être quelque chose, c'est le président de l'abattoir de Villeneuve-sur-Lot, abattoir qui avait connu la visite de L214, abattoir qui avait reçu un avis de non-conformité mineure. À côté de ça, Serge Bousquet-Cassagne est un syndicaliste du secteur agricole.
Syndicaliste de droite.
Non, il est pour... Non.
Il est à la FNSEA.
Non, pas lui. Pas du tout, non. Il est pour accueillir les migrants. Il est à pas confondre avec Étienne Bousquet-Cassagne, qui a un manque du FN, qui est aussi un conseiller municipal de Villeneuve-sur-Lot. Non, il est plutôt... moi, j'ai lu une longue interview de lui où il explique qu'il faut accueillir les migrants et qu'il voudrait mettre à disposition... il est de la coordination rurale, il me semble.
Ouais,
entre deux, ouais. Enfin, où il y était avant, mais il a été... A priori, d'après ce que j'ai compris, il a eu des soucis, parce qu'on est allé chercher sur ses... La justice s'est intéressée à ses comptes bancaires suite à une affaire où ils avaient envahi un supermarché. Tout ça. Bon, voilà, non, il a plutôt un bon fond, mais a priori, ouais. Il avait plutôt un abattoir pourri.
Ouais,
si
ça,
je peux
ouais.
synthétiser.
Il avait un bon fond, mais il torturait les animaux.
Donc, il dit que quand même, là-bas dans le sud-ouest, il y a comme des Espagnols et des gens qui sont issus de la lutte contre le franquisme et qu'il y a une certaine sensibilité et que donc il faut accueillir des gens. Je ferme la parenthèse sur Serge Bousquet-Cassagne.
Il défend les êtres humains, mais bon, les canards, non.
C'est exactement ce qu'il dit, que L214, ouais. Il commence à nous faire chier. C'est pratiquement ça son propos. Donc pour revenir pour Vivadour qui est attaqué par une partie des producteurs de foie gras, c'est le premier employeur privé du Gers, 850 salariés, il y a 55 000 agriculteurs adhérents. Il faut savoir que Vivadour a des partenariats agroalimentaires, on pourrait dire, puisque Vivadour, la coopérative, est actionnaire aux côtés de Maïs-Aïdour de Val et de Sèvres Holding, de MVVH, qui veut dire Maïs-Aïdour, Vivadour, Val de Sèvres Holding, au sein desquels sont regroupés les marques Delpera, Sarat, Comtesse de Barry et Delmas, du bon foie gras industriel. Hein, vous l'aurez bien compris. Vivadour a été géré, parce que ça vient de se terminer, pendant 25 ans par Christophe Terrin. Lui, il est de droite, tu peux y aller. Lui, il nous parle du poulet d'ici, c'est-à-dire que son poulet industriel français, il est mieux que le poulet brésilien ou allemand. C'est vrai que du coup, il n'y a pas le transport, hein, mais sinon, c'est à peu près le même. Il explique qu'il est mieux parce que c'est des céréales locales, des éleveurs locaux, des abattoirs locaux, des salariés locaux. Donc, ce qui est local, c'est forcément mieux, même quand c'est industriel. Hein. Bon, Christophe Terrin, il a cédé la présidence de Vivadour à Jean-Marc Gassiot-Vitalis, qui est un engraisseur de porc, qui produit aussi des semences de maïs et qui cultive du céréale. Ah bah oui, puisque là, on est face à des patrons hein, d'entreprise. Christophe Terrin, il a eu diverses responsabilités. Il en a toujours beaucoup. Il est vice-président d'Orama, qui est le producteur. Ça regroupe les producteurs de maïs, de blé, entre autres. Président d'Arvalis, un institut du végétal. Allez sur le site Arvalis, institut du végétal. C'est une petite merveille. Lui, il est à la FNSEA, il est membre du bureau. Il a été président de l'Association Générale des Producteurs de Maïs. Je ne vais pas tous vous les faire. Globalement, il est plutôt pointé du doigt comme aimant les OGM, donc plutôt comme ami avec Monsanto. Vous voyez un peu le genre. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, Christophe Terrin a donc géré Vivadour. Hein, vous voyez un petit peu le personnage. Là, oui, on est de droite, on est dans le libéralisme accru, poussé, c'est un ancien rugbyman, hein, au fait. Il est conseiller départemental et donc il a quitté son poste parce qu'en fait, c'est la raison que j'y vois, il est candidat aux législatives de juin 2017. Alors, a priori, il est sous l'UDI parce qu'il a à un moment cotisé chez les Républicains, mais les Républicains se sont bien aperçus qu'il était toujours membre de l'UDI, donc ils n'ont pas voulu de lui dans le Gers. Ils lui ont dit « t'es gentil, mais tu fais un peu double entrée, donc on ne veut pas de toi ». Donc c'est un homme politique et un patron, monsieur Terrain, Christophe Terrain, et c'est bien comme ça hein, qu'il a mené Vivadour. Donc on a une crise aujourd'hui agricole importante chez les producteurs de foie gras, mais parce qu'on a une industrialisation du secteur qui amène aujourd'hui à des gros problèmes sanitaires, et c'est la faute finalement aux industriels.
Bon voilà, il reste deux minutes, ça va être un peu court pour parler du coton, mais je vais juste vous inciter à vous chercher un petit peu des infos. C'était un exemple en Égypte d'une entreprise qui existe depuis 40 ans et qui depuis 40 ans défend la culture biologique du coton en Égypte, voire en biodynamie. Alors je ne vais pas revenir sur la biodynamie hein, parce que c'est critiquable beaucoup scientifiquement la biodynamie.
C'est un joli mot.
Ouais, pourtant c'est un joli
c'est
mot.
Tout ce qu'il y a bio et derrière un mot, c'est joli.
Voilà, on est un peu dans le charlatanisme, mais par contre au niveau agriculture biologique ils ont fait pas mal de choses, et c'est un exemple qui montre que le coton c'est une culture qui est dévastatrice, et voilà qu'il y a une entreprise qui existe depuis 40 ans en Égypte et qui fait du coton bio et qui se débrouille plutôt pas mal pour le faire. C'était voilà cet exemple que je voulais prendre pour parler de ça. La société s'appelle Sekem. Bon, on va faire un petit agenda, il reste moins d'une minute. Petit agenda avec samedi prochain à la librairie La Griffe à 15h rue Sébastien Griffe. Il y a une rencontre débat autour du livre La Grève des Ovalistes. Vous savez, les ovalistes, c'est ces ouvrières de la soie hein, qui préparaient le fil de soie juste avant qu'il puisse être tissé. Donc une des grosses grèves de 1869, donc une des premières grandes mobilisations du mouvement ouvrier en France. Alors il y avait eu les mobilisations des Canuts en 1834, je crois, pour une des deux. Mais donc voilà, c'est aussi des femmes, là, cette fois-ci, qui occupent la rue, qui se mobilisent. Donc c'est une belle histoire de mobilisation ouvrière, hein, la grève des ovalistes. Donc c'est l'occasion d'en reparler avec les auteurs de ce livre, donc qui sera présenté samedi prochain à La Griffe à 15h. La Griffe étant toujours dans le 7e rue Sébastien Griffe. Et puis le soir même, pas très loin, rue Montesquieu, toujours dans le 7e, à l'atelier des Canulars, il y a une projection d'un film qui s'appelle Poison contre Poison. Donc ça se passe en Colombie et en Équateur, et c'est sur un scandale sanitaire qui implique les gouvernements colombiens et nord-américains sur fond de lutte contre la drogue. On sait ce qui se passe, hein, ils vont notamment pulvériser les champs de drogue, d'herbicides, de choses comme ça, mais ça va tout contaminer, les cultures, l'eau des rivières, etc. Bon, voilà un reportage qui a l'air sympathique, enfin sympathique, intéressant, parce que sympathique, je sais pas, intéressant, sur cette catastrophe de la lutte, au nom de la lutte anti-drogue, de la destruction, notamment de certaines régions en Colombie, en Équateur. C'est donc à 20h samedi prochain, à l'atelier des Canulars, 91 rue Montesquieu. Et voilà, il est 20h, on va se retrouver très bientôt. Mon ami de l'émission précédente m'a laissé une petite info. Si vous êtes du côté de Gardanne, donc plutôt dans le sud de la France, dimanche 5 février, il y a une mobilisation contre la destruction du patrimoine forestier pour alimenter une chaufferie. 2500 tonnes de bois brûlés par jour dans une chaufferie qui est pas moderne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de co-génération, une grosse partie de l'énergie est perdue. Enfin voilà, une aberration écologique qui est faite au nom de l'écologie. Donc c'est à Gardanne le dimanche 5 février à 10h30 devant la mairie de Gardanne. Voilà, on vous laisse en compagnie de la petite cuillère.
Et oui, nous on se retrouvera la semaine prochaine si tu le veux bien.
Oui, et demain pour le prochain Canu Info, 19h.
On vous souhaite une bonne soirée, à bientôt, ciao ciao.